Je vous invite à ouvrir ce matin vos Bibles dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10, pour un passage que nous connaissons très bien et qui traite de ce sujet que nous appelons la lutte spirituelle. Et donc, je vais le décliner sur plusieurs messages. Et aujourd'hui, je voudrais tenter de répondre à cette première question, question très importante, avant même d'envisager la lutte, le combat, le pourquoi. Combien il est important de comprendre quelle est la situation de notre ennemi aujourd'hui. Car qui parle de lutte parle d'un ennemi. Cet ennemi, c'est Satan. Mais qu'en est-il exactement de sa situation et de sa puissance aujourd'hui? Alors nous lisons d'abord Éphésiens chapitre 6 du verset 10 au verset 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Dans ce passage, Paul met en évidence qu'il existe bien une guerre spirituelle. Et le mot qu'il choisit, quand même plus précis, puisqu'il parle d'une lutte, il utilise un verbe en grec qui était réservé à cette pratique que nous appelons, ce sport que nous appelons la lutte gréco-romaine. Ce n'est donc pas simplement un combat à distance, mais il nous parle ici d'une véritable empoignade. Parlant d'un combat de proximité, un combat de corps à corps. Et l'apôtre Paul nous dit, il nous avertit, que hormis l'utilisation des armes que Dieu a prévues pour nous, nous demeurons désespérément faibles en puissance. Et voilà, trop de chrétiens demeurent des proies faciles pour Satan, parce qu'ils feignent d'ignorer que nous sommes engagés dans une lutte spirituelle. Et encore plus inquiétant est le fait que beaucoup même de ceux qui se considèrent en guerre ne comprennent pas la nature du combat à mener, la manière et les buts de ce combat et surtout, par-dessus tout, la situation de notre adversaire Satan. Et dans le premier message de cette série, c'est sur cela que je voudrais me concentrer, car c'est une question majeure. Qu'en est-il de la puissance de Satan aujourd'hui, de ses capacités de nuisance, voire d'attaque, de destruction contre les hommes et en particulier contre les disciples de Jésus-Christ. Mais encore plus important, qu'en est-il de la victoire de Jésus à Golgotha sur Satan et sur ses démons? Parce que Jésus a triomphé. Mais comment se traduit cette victoire dans notre quotidien alors que nous voyons autour de nous encore tant de souffrances? Et comment comprendre la lutte que nous devons mener personnellement par rapport à cette victoire de Jésus-Christ? Donc ce matin, je ne vais pas revenir aux choses de base de la personne de Satan. Vous avez eu de nombreux enseignements, ces choses ont été prêchées ici. Je veux vraiment réfléchir à la portée de la victoire de Christ et à la manière d'envisager Satan et l'influence de Satan aujourd'hui dans nos vies. La première des choses dont je vous parlais, c'est l'imposture de Satan. Et c'est là, certainement, la question la plus importante à cerner avant de s'engager tête baissée dans le combat. Quelle domination Satan exerce-t-il depuis la victoire de Jésus-Christ à la croix? Satan est-il encore un lion rugissant, à l'affût, prêt à dévorer une proie? Ou bien n'est-il qu'un animal édenté et enchaîné? Alors tout d'abord, je veux vous dire que Satan est donc un imposteur, et même, comme nous le disons aujourd'hui, un squatteur. Peut-être plane-t-il sur les nations du monde, à la manière de ce buisson qui voulut s'élever comme roi, dans la parabole de Jotham, fils de Gédéon. Mais, même s'il prétendait offrir à Jésus tous les royaumes du monde si celui-ci l'adorait, disons-le clairement, jamais Satan n'a eu aucun droit sur la création. Oui, Dieu a livré à Satan les royaumes de ce monde dans la mesure où le péché règne dans le cœur des hommes. Et Jésus l'a appelé à ce titre le prince de ce monde. Mais ça ne veut absolument pas dire que Dieu lui a abandonné les destinées de l'humanité. Car tout demeure entre les mains de Dieu. Jamais, jamais Dieu n'a laissé à Satan un seul instant les rênes de notre monde ou de la vie des hommes. La Bible insiste tout entière sur la souveraineté absolue et sans restriction de Dieu sur la création. Il est écrit à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Psaume 24, verset 1. Amen. Satan est donc une créature. Dieu n'est pas une créature. Jésus n'est pas une créature. Satan est une créature dont le pouvoir dépend sans cesse de la permission que Dieu lui donne. Il n'est ni omnipotent, ni omniscient, ni omniprésent. Ça, ce sont des attributs de la divinité. Et sa force et l'étendue de ses capacités ne sauraient être aucunement comparées à celles de notre Dieu. Satan n'est pas un dieu bis. Il est peut-être le dieu de ce monde. Il en a la prétention, mais il n'en a pas l'autorité. Il n'en a pas la force, car il est écrit dans le livre du prophète éternel, l'Ésaïe, « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Certains disent malgré tout, Satan a dérobé à Adam son autorité sur la création. Comme si Satan avait arraché des mains d'Adam un sceptre d'autorité et obtenu par là le droit de gouverner la race humaine et la création par une autorité légale. Seulement, je vais vous dire, il n'y avait point de sceptre dans les mains d'Adam. Car Adam n'a jamais été propriétaire de la création. Adam n'en était que le gestionnaire, que le mandataire de Dieu. En cela, il a failli. Et ayant failli en écoutant Satan, il a perdu cette bénédiction pour se retrouver sous la malédiction du péché, de la mort entraînée par Satan. Par conséquent, le diable ne possède nullement l'autorité de gouverner les nations et les hommes. Par contre, l'homme se trouve sous la puissance de Satan à cause de son péché. Et par sa révolte contre Dieu, l'homme s'est rangé aux côtés de Satan. En ce sens, il devient, Colossiens 1:13, captif de la puissance des ténèbres. Et maintenant, je voudrais me tourner vers l'essentiel, c'est-à-dire vers Jésus-Christ. Le Seigneur est venu sur cette terre pour le salut de l'humanité. Mais dans cette perspective, il devait être confronté à Satan. C'est ce que nous dit 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Et tout au long de son ministère, Jésus a été confronté à Satan lui-même, aux démons et à tous les dégâts qu'ils occasionnaient. Pierre disait que Jésus allait de lieu en lieu pour guérir et libérer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car le Seigneur était avec lui. À la veille de sa mort, Jésus dit à ses disciples, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Et par la construction de sa phrase, Jésus insistait sur le mot « maintenant ». Et ce « maintenant » est lié à la croix de Golgotha dressée parmi les hommes il y a 2000 ans. Et sur la croix, là où Satan croyait remporter la victoire, il fut vaincu. Oh certes, certes, comme le livre de la Genèse l'avait dit, Satan a comme mordu le talon de notre Seigneur, mais n'empêche que Jésus-Christ lui a écrasé la tête. Et Jésus a remporté sur lui une victoire définitive. Paul l'écrit dans Colossiens 2, « Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Et l'Épître aux Hébreux rajoute, « Par la mort, Dieu a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Et les Écritures nous disent ceci de la victoire de Jésus-Christ sur Satan. Écoutez bien. Premièrement, Satan a été jugé. Jean 16, 11. Satan a été jugé. Deuxièmement, Satan a été dépouillé, c'est-à-dire vidé de lui-même, vidé et ridiculisé publiquement. Troisièmement, Satan a été anéanti dans sa puissance. Et quatrièmement, Satan a été jeté dehors, il a été expulsé. Et ces quatre expressions, ces quatre verbes sont tous tirés de la Bible. Si j'insiste, c'est parce que l'ayant dit ceci, il n'en demeure pas moins une certaine perplexité au milieu de nous. Par manque de foi, par incompréhension, ou simplement par la force du témoignage des choses que nous voyons autour de nous. Et nous voyons toujours que le diable est libre de se déplacer et d'agir. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas en contradiction avec les Écritures. Le livre de l'Apocalypse nous montre que dans les derniers temps, sachant que son heure est proche, il sera plus destructeur que jamais. Et il faudra même un combat extraordinaire dans les cieux, Apocalypse 12, pour que Satan soit expulsé des cieux. Et il faudra même, Apocalypse 20, qu'un ange puissant vienne saisir le dragon ancien et le jette dans un abîme pendant 1000 ans. Ainsi, à la croix, Satan fut donc vaincu, dépouillé, jugé. Seulement, il demeure aujourd'hui dans l'attente de l'application de son jugement. Et nous nous posons cette question. Alors, qu'en est-il réellement de la situation de Satan aujourd'hui? Et qu'en est-il réellement de la dangerosité de ce lion rôdeur et rugissant? Face à ce problème, disons tout d'abord que jamais la Bible n'enseigne que le dépouillement du diable devait éliminer la méchanceté de la terre ou rendre Satan et ses démons inopérants. Car Satan demeure un ennemi pervers, un tentateur, un lion rôdeur et dévoreur. En fait, il nous faut comprendre qu'il y avait deux victoires à remporter sur Satan. La première victoire, c'est celle de Jésus-Christ. À la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent, la tête de Satan. Mais il y a une deuxième victoire, et cette victoire nous concerne. C'est notre victoire en Jésus-Christ. Et comme Paul l'écrit dans Romains 16, 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et cela constitue la promesse d'une victoire dans notre propre bataille contre Satan, parce que nous sommes engagés dans une bataille contre lui. Mais cette victoire est déjà inscrite dans la victoire de Christ à la croix. Le Seigneur a écrasé la tête de Satan, et Dieu nous dit que bientôt, nous écraserons le reste du corps. Alléluia. Mais je voudrais vous dire ceci. Cette victoire est pour maintenant. Pour toi, mon frère, ma sœur. Cette victoire est promise en tout lieu, en toute situation. Mais la victoire et le combat spirituel commencent et consistent avant tout à confesser la seigneurie de Jésus-Christ. Car voyez-vous, la lutte spirituelle consiste moins à vouloir reprendre à Satan ce qui nous aurait pris. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose que Satan nous aurait pris qui m'intéresse. Mais la lutte spirituelle consiste surtout à vivre ce que Christ a acquis pour nous. À le vivre, à le préserver et à le communiquer aux autres. C'est là qu'est véritablement la lutte spirituelle. Maintenant, je veux toucher à des choses qui nous concerne directement. Et je dois insister sur le fait que c'est en demeurant en Jésus que nous sommes victorieux. Dans Jean 14, 30, le Seigneur dit ceci: « Le prince du monde n'a rien en moi. » Et maintenant, pouvons-nous dire la même chose? C'est important de répondre à cette question. Je peux vous renvoyer à ce thème de prédication que j'ai abordé il y a quelque temps sur l'iniquité, la puissance de l'injustice. Parce que si Satan trouve quelque chose qui lui appartient en vous, alors il a autorité sur vous. Il trouvera toujours un moyen de revenir vers vous, de s'accrocher à vous. Mais s'il ne trouve rien en vous, parce qu'en vous il n'y a que Jésus-Christ, la victoire de Jésus-Christ, alors il n'a plus aucune autorité sur vous. Mais tant que demeure un bastion spirituel lié à l'injustice, à l'iniquité, eh bien Satan se plaira à vous imposer encore sa domination. Non pas totale et complète, mais par cycle. Il viendra pour vous ruiner intérieurement, pour vous asservir, pour vous plonger dans la détresse. Il sait qu'il n'a pas de pouvoir sur votre vie. Vous appartenez à Christ, mais malgré tout, il garde une parcelle d'autorité en vous. Il est important que Satan n'ait rien en vous, mes frères et sœurs. Deuxièmement, même si Satan n'a plus rien en vous, ça n'empêchera pas qu'il veuille vous lancer sur nous des traits enflammés, lancer ses attaques. Et c'est là que l'apôtre Paul nous invite à revêtir toute l'armure de Dieu. Parce que même s'il ne voit rien en nous qui lui appartienne, il est jaloux de nous. Oui, le diable est jaloux de nous. Il est jaloux de nous parce que nous sommes aimés de Dieu. Il est jaloux de nous parce qu'il voit en nous l'Esprit de Christ. Il est jaloux de nous parce qu'il sait que nous avons reçu le royaume du Seigneur. Et tout ça, ce sont des choses qu'il hait, parce que lui en a été exclu, il a perdu tout cela. Je vais même vous dire, savez-vous pourquoi il est jaloux? Parce que nous occupons une place en Jésus que lui n'a pas pu occuper. Il voulait s'élever jusqu'au trône de Dieu et même aller plus haut. Et à cause de cela, l'iniquité a été trouvée en lui, il a été précipité. Mais nous pouvons nous asseoir sur le trône. Et il est jaloux, terriblement jaloux. Alors même s'il ne trouve plus rien en nous, parce que l'Esprit de Christ, la vie de Christ est en nous, que toute passion d'iniquité, tout péché a été réglé devant le Seigneur, il continuera à vouloir éprouver nos vies, à nous attaquer. D'où la nécessité. Premièrement, comme Paul le dit, verset 10, d'être fortifié dans notre être intérieur. Premièrement, avant même de parler de la cuirasse de Dieu, des armes de Dieu, il faut que nous soyons pleins du Saint-Esprit. Il faut que cette bénédiction se manifeste dans notre vie. Qu'intérieurement nous soyons pleins du Seigneur, pleins de la vie de Jésus. Parce que à quoi ça servirait de prendre les armes de Dieu si à l'intérieur nous n'avons pas les forces pour porter ces armes? Et deuxièmement, l'apôtre Paul nous dit, même à vous, chrétiens, en qui Satan ne trouve plus rien qui lui appartienne, il nous dit, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une exhortation, c'est un impératif, prenez les armes de Dieu. Prenez l'armure que le Seigneur a préparée pour nous. Et je dois vous dire que cette armure n'a rien à voir avec celle que Saül voulait mettre sur David, il ne savait plus quoi en faire, David. Mais l'armure de Dieu est une armure ajustée, adéquate, est indispensable pour tous les chrétiens. Et cette armure, Paul bien sûr la décrit ici en détail, mais cette armure, c'est avant tout le revêtement de puissance du Saint-Esprit. C'est l'armure de Jésus-Christ, c'est la vie de Jésus-Christ en nous et sur nous, et nous avons besoin d'être équipés. Parce que le diable est là, il est jaloux, et s'il ne trouve rien en nous pour nous faire tomber, il voudra malgré tout nous attaquer pour empêcher que nous puissions jouir de tout ce que Dieu veut nous donner. Satan est quelqu'un qui se trouve dans une situation terrible. Voyez-vous, Satan ne peut pas voir les choses d'une manière réelle, parce que à cause de sa rébellion, il est rentré dans une vision déformée, une perception déformée des choses. Ainsi, il ne peut pas croire qu'on puisse adorer Dieu sur la base de qui est le Seigneur.
Lui, il croit qu'on appartient à Dieu que parce que Dieu nous donne quelque chose. Je vous renvoie à Job. Éprouve-le dans son corps et tu verras s'il te sert encore. Il n'imagine pas qu'on puisse avoir cette relation d'amour avec le Seigneur. Et en même temps, Satan est profondément habité par ses sentiments, les sentiments torturés. Lui, il n'imagine pas que les hommes puissent vivre autrement que par l'orgueil, la vanité, la recherche du plaisir, parce que ce sont ces choses-là qui l'ont poussé à vouloir s'élever au-dessus de Dieu, c'est par ces choses qu'il est tombé. Alors, il sait exploiter toutes les choses ténébreuses, mauvaises qui sont dans le cœur de l'homme. Et Satan ne sait rien de la grâce, il ne sait rien de l'amour. Il ne se réjouit que dans la destruction, que dans la misère. Satan, qui est entré dans une révolte totale contre Dieu, dans une complète dépravation, Satan, quelqu'un a écrit, est forcément malheureux. On ne va pas le plaindre, mais il est malheureux. Il vit un malheur, une rupture terrible. Il fuit sans cesse la présence de Dieu sans pouvoir y échapper. Il cherche toujours à détruire les desseins de Dieu, mais il est toujours obligé de contribuer à leur accomplissement. Et Satan sait que son destin est scellé depuis que le Seigneur l'a vaincu à la croix, depuis qu'il a été jugé, depuis qu'il a été anéanti dans sa puissance. Il sait que son destin est scellé. Lorsque le Seigneur reviendra sur terre pour régner pendant 1000 ans avec l'Église et Israël, au tout début de cette période, il nous est dit qu'un ange puissant, Apocalypse 20, viendra lier, se saisir du serpent et le jettera pendant 1000 ans au fond de l'abîme. Et pendant cette période de 1000 ans, les hommes ne seront plus sous les effets des ruses et des tentations de Satan. Et puis, cette période accomplie, Satan sera délié pour un peu de temps et une nouvelle fois, il fomentera une révolte et alors il sera vaincu définitivement par le Seigneur. Il sera jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, 10. Je veux m'arrêter simplement ici pour essayer d'extirper de notre imagination, de nos têtes, quelques images religieuses où nous voyons Satan armé d'une fourche et en train de mettre des flammes sous les marmites. Satan ne va tourmenter personne en enfer. Savez-vous pourquoi ? Parce que lui-même sera tourmenté. Il ne va exercer aucune autorité en enfer parce qu'il aura été totalement démis. Et il sera, lui aussi, dans un tourment permanent. Pourquoi ? Premièrement, parce que lui, comme les hommes qui seront avec lui, seront séparés de Dieu pour l'éternité. Et à cause de cela, ils ne verront plus la lumière, mais ils ne verront que la misère et la ruine qui s'abat sur eux. Telle est la situation de Satan. Alors maintenant, je voudrais me tourner vers un passage qu'on va commenter rapidement. Et hier, je me suis arrêté vraiment sur ce verset, sur ce quelques versets, dans 1 Jean chapitre 5. Versets 17 à 19, et vraiment j'ai été interpellé par ce passage, je voudrais vous le communiquer. Il va faire le lien donc avec aussi cette série que nous avons vue sur l'iniquité. 1 Jean 5, 17 à 21. Jean écrit « Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. » Alors maintenant, arrêtons-nous sur ce verset 18, il est très fort. « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point. » Waouh. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors ce verset résume bien tout ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Premièrement, le monde est sous la puissance de Satan. Alors il n'y a rien de surprenant à voir toutes les misères que nous voyons autour de nous, tous ces ravages. Et il en sera ainsi jusqu'au retour de Jésus-Christ. Jusqu'à l'enchaînement de Satan et jusqu'à la promesse du Seigneur de renouveler toute la création, cette terre particulièrement qui a tant souffert du péché. Et je veux dire aussi que si nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Et donc, nous ne sommes plus sous la puissance de Satan. Ce monde gît sous la puissance de Satan. Il gît sous l'empire du péché. Autrefois, nous étions avec eux, mais le Père nous a transportés du royaume des ténèbres jusque dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes de Dieu. Nous ne sommes plus de Satan. Nous sommes de Dieu par la victoire de Jésus. Et Satan n'a plus aucune autorité sur nous. Jean insiste toutefois sur deux choses. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il faut que rien de ce qui appartient à Satan ne demeure en nous. Péché, iniquité. Sans quoi Satan gardera une emprise sur nous. Il y a ce qui est intérieur. Je l'ai dit tout à l'heure. Dois-je rajouter ce qui pourrait nous côtoyer de près et par lequel nous pouvons être affectés? Parce que si Satan ne trouve plus aucun pouvoir, aucun point d'accroche en nous, il peut essayer, malgré tout, de nous rattraper en trouvant des points d'accroche à côté de nous, dans nos familles, dans notre entourage proche, etc., etc. Et là, nous avons une lutte spirituelle à mener, dans la prière et l'intercession, mais aussi dans une vie intègre et dans un témoignage digne du Seigneur, afin que l'emprise de Satan autour de nous disparaisse. En nous rappelant ceci, comme Paul l'écrit dans 1 Corinthiens, par exemple dans un couple, si l'un est chrétien, l'autre ne l'est pas, celui qui est chrétien contribue à la sanctification de l'autre, contribue à son apaisement, contribue à l'amener vers le Seigneur. Et c'est là notre mission, sanctifier ceux qui sont autour de nous, afin que Satan n'ait plus d'emprise en nous, mais sur ceux que Dieu a placés à nos côtés aussi. Il est malgré tout de notre responsabilité de nous garder nous-mêmes. Vous avez lu, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Quand bien même Satan n'a plus rien en moi, je dois me garder, parce qu'il ne manquera pas, à cause de sa jalousie, de vouloir m'attaquer. Et je dois donc être fort intérieurement, c'est-à-dire plein du Saint-Esprit, et manifester cette plénitude en toute occasion, m'entretenant par des psaumes, des cantiques, chantant, louant la grâce du Seigneur. Alléluia. C'est ma responsabilité. Mais aussi de revêtir toute l'armure, c'est-à-dire de revêtir toute la puissance du Saint-Esprit. Car Satan continuera à nous attaquer, notamment, oh tiens, rappelez-vous, Satan est allé tenter Jésus dans le désert. Le Seigneur l'a fait fuir. Mais que nous dit la fin de l'évangile de Luc à ce moment-là, de ce passage? Satan s'en est allé, mais attendant qu'une occasion se manifeste. Et il est à l'affût, oui, rappelez-vous, le lion rugissant, le lion dévorant, mais avant tout le lion rôdeur. Et Satan rôde, et qu'est-ce qu'il attend? Il attend ces moments où nous pourrions avoir la tentation, par fatigue peut-être, de nous débarrasser de l'armure. Rappelez-vous David, un jour, il est resté à Jérusalem alors que c'était la saison où les rois partaient en guerre. Il n'a pas voulu revêtir l'armure. Il est resté là pour profiter de l'été qui arrivait. Et sur les terrasses de Jérusalem, il a vu cette femme, Bathsheba, et il est tombé. Il peut y avoir des moments où nous sommes fatigués, épuisés. C'est les moments les plus difficiles à passer. Et c'est alors que, même si je n'ai plus la force de lutter, même si mes prières deviennent difficiles, je veux croire encore dans ce que Jésus a dit. Père, préserve-les. Préserve-les de la tentation. Préserve-les de l'esprit de ce monde. Seigneur, préserve-moi lorsque je n'ai plus les forces de le faire. Mais si vous faites tout cela, si vous veillez à ce que Satan n'ait plus rien en vous, si vous faites attention à demeurer dans cette vie de l'esprit, dans cette plénitude, en étant équipé des armes du Saint-Esprit, Il y a cette déclaration extraordinaire de l'apôtre Jean. Heureusement que c'est lui qui l'écrit, parce que si je le disais, vous ne le croiriez pas. Le malin ne le touche pas. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Tellement extraordinaire qu'il y en a plein qui ont du mal à le croire. Ici même. Mais c'est vrai. Si Satan ne trouve plus rien en moi, et si je veille sur ceux qui m'entourent pour que la grâce de Dieu soit sur leur vie, si je prends toutes les armes du Saint-Esprit, étant rempli du Saint-Esprit, Satan ne peut plus me toucher. Peut-être essaiera-t-il encore quelques volées de flèches. Mais par les armes que Dieu me donne, je pourrai faire face. Peut-être en voudra-t-il à mon corps. Mais je ne veux craindre que celui qui peut détruire mon corps et mon âme. Et ma vie appartient à mon Seigneur. Et Satan ne pourra jamais aller au-delà de ce que Dieu a fixé. Et dans l'épreuve, le Seigneur me donnera encore les forces pour surmonter tout cela. Alléluia. La seule chose que je veux faire attention, c'est de prendre garde de ne pas tomber en m'attachant à mon Seigneur. Alors, je veux finir en disant ceci. Mes frères et sœurs, n'alimentons pas le fonds de commerce de Satan. De deux manières. Il y a des chrétiens qui passent beaucoup plus de temps à s'occuper de Satan qu'à s'occuper de Jésus. Pour eux, le combat spirituel, c'est lier et délier tout ce qui peut passer à portée de main. Alors que le combat spirituel, c'est avant tout demeurer en Jésus. S'inscrire dans la victoire de Jésus. Rendre gloire à notre Seigneur. Vivre ce que Jésus a acquis pour nous. La Bible ne donne jamais plus d'importance que ce qu'il en faut à Satan. Elle préfère se concentrer sur la victoire de Christ. Deuxièmement, le fond de commerce de Satan, c'est la peur. Hébreux 12, 14, 15. Si vous voulez le lire, prenez-le. Il est écrit que Dieu a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Je ne veux plus être dans la servitude. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Et je ne veux pas être dans la peur vis-à-vis de Satan, parce que si je suis dans la peur, je suis son esclave. Alors je ne veux pas alimenter son fonds de commerce. Mon frère, ma sœur, n'alimente pas le fonds de commerce de Satan. La peur, la superstition, les phobies de tout genre. Le malin ne peut pas te toucher si tu es en Jésus-Christ. Et si Christ est en toi, il n'a plus rien en toi, il n'a plus d'autorité dans ta vie. Si tu prends toutes les armes, si tu es rempli du Saint-Esprit, oh, tu connaîtras peut-être les attaques. Mais tu seras avec ton Seigneur dans la victoire de Jésus. Non, mon frère, ma sœur. Ne sois pas dans une peur superstitieuse. N'alimente pas le fonds de commerce de Satan, mais proclame la Seigneurie de Christ. Proclame la victoire de Christ dans ta vie, dans ta famille, dans ton entourage. Sois celui qui se tient à la brèche pour la guérison des tiens. Alléluia. Alléluia. On va prendre le temps de prier ce matin quelques instants. Fermons nos yeux, inclinons nos fronts, s'il vous plaît. Et s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui, à l'écoute de cette parole, s'est dit « Je suis concerné. » Oh, mon ami, mon frère, ma sœur, Satan a peut-être encore un point d'accrochage dans ta vie. Une forteresse d'iniquité, une forteresse d'injustice. Et à cause de cela, trop souvent, il te met à terre. Et tu pleures devant ton Dieu. Mais le Seigneur a promis de nous délivrer de l'iniquité pour que Satan n'ait plus rien en nous. Alléluia. Et ce matin, il est capable de t'apporter cette révélation. Mais il y a peut-être aussi au milieu de nous des frères, des sœurs qui sentent que ils se sont relâchés. Ils se sont relâchés dans la communion, dans la vie de l'Esprit. Ils ont oublié de se fortifier intérieurement, ils ont oublié de prendre les armes que le Seigneur avait préparées pour eux. Et vous savez ce qui est arrivé? Ils ont péché parce qu'ils se sont retrouvés nus et exposés et le lion qui rôdait les a rattrapés. Ce matin, tu peux commencer à demander pardon à Dieu, de lui dire « Seigneur, donne-moi la force de reprendre le combat. Et d'abord, Seigneur, renouvelle-moi de ton esprit. » Seigneur mon Dieu, donne-moi de renouer cette communion avec toi. Car ce n'est pas en vociférant que j'aurai la victoire, mais c'est en étant en toi. Et je te promets, parce que la Bible dit, que le malin ne te touchera plus. Et que bientôt, très bientôt, mon frère, ma sœur, papa, maman, mari, femme, tu écraseras Satan. Là même où il croyait avoir la victoire, tu remporteras ce triomphe avec Jésus-Christ. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui est à l'écoute de ce message, a peut-être aussi besoin d'être délivré de cette crainte, de cette peur de Satan, par laquelle il te tient captif. Tu es encore un esclave. Sois libre. Sois libre. Par la révélation de la parole de Christ, par la puissance du Saint-Esprit, sois libre. Parce que Dieu a anéanti, par la croix de Christ, celui qui avait la puissance de la mort. Et si dans tout ce que j'ai dit, tu te sens interpellé, alors je veux t'inviter à te lever, à prendre position et à dire, Seigneur, je ne me laisserai plus asservir. Satan n'a aucun droit. Satan n'a aucune autorité. Il n'a aucun pouvoir sur ma vie. Je veux vivre ta victoire. Je veux vivre ta seigneurie. Je ne veux plus que Satan ait quelque chose en moi, Seigneur. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut se lever à l'écoute de ce que j'ai dit? À l'écoute de la voix de l'Esprit qui est en toi. Oh, alléluia, Seigneur. Alléluia. Gardons nos têtes baissées, nos yeux en prière. Seigneur, maintenant, je te prie, mon Dieu, de passer au milieu de nous par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a rien de commun entre Christ et Bélial. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Et ce matin, Seigneur, nous acceptons la lumière de l'Évangile. Et nous voulons faire face, Seigneur, mon Dieu, à celui qui est notre ennemi, non pas dans une attitude arrogante, mais en nous inscrivant dans la victoire de Christ. Et la première des choses que nous voulons, Seigneur, c'est que Satan n'ait plus rien en nous. Alors délivre-nous de la puissance de l'iniquité. Délivre-nous de la puissance du péché. Délivre nos proches, nos bien-aimés, afin que Satan ne puisse même plus nous rattraper dans nos familles. Et je prie, mon Dieu, pour que des victoires soient manifestées maintenant et que Satan soit expulsé, dépouillé, anéanti de tout ce qu'il pouvait posséder dans nos vies. Pas même, Seigneur, un ongle, un cheveu, mais tout pour toi. Seigneur, je prie pour que nous soyons un peuple qui n'ignore rien de la lutte spirituelle. Un peuple, Seigneur, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Un peuple qui sait qu'il est l'objet de la jalousie de Satan, de sa férocité, mais un peuple qui sait que Dieu lui a donné les armes pour résister. Et Seigneur, quand Satan n'a plus rien en moi, il peut venir avec ses traits enflammés, mais Seigneur, je sais que j'ai la puissance par ton esprit de lui résister puisqu'il n'a plus rien en moi. Alors Seigneur, délivre-nous ce matin de la tentation. Délivre-nous ce matin de l'iniquité et revêt-nous de toute la puissance du Saint-Esprit. Si quelqu'un au milieu de nous, Père, a besoin de se placer devant toi dans un esprit de repentance, je te prie, mon Dieu, de manifester ta puissance. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, de lui accorder ton pardon, ta restauration, ta délivrance, ton assistance. Seigneur, c'est là le plus important de toutes les luttes que nous avons à mener. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. N'ayez plus peur, Christ est vainqueur.